Et ça reprend, c'est le moment.
Bah, quel moment?
Celui de la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. La première émission d'une semaine n'est jamais évidente, et après le déballage de cadeaux et les repas conviviaux, nous voilà de retour. Nous allons tenter de reprendre avec une certaine légèreté, on va se laisser porter par le souffle du vent et le murmure des nuages, si vous le voulez bien. Et pour ça, on va traverser l'écran, le grand écran même, et aujourd'hui, on va même parler de 5 histoires, 5 courts-métrages, et la possibilité de les apprécier tout autrement que de la manière dont on le fait habituellement. Ces 5 histoires nous parlent de l'eau qui danse, des oiseaux qui volent, et en fait de la nature dans toute sa sagesse, son humour et sa poésie. Oui, c'est encore un voyage que je vous propose pour commencer cette semaine et terminer cette année 2024. Et ce voyage, bien c'est Nimbus, un ciné-concert conçu pour émerveiller les plus jeunes, intriguer les moins jeunes et réunir les générations autour d'un même éclat de rire ou d'un moment de réflexion. Et ça donc grâce à 2 artistes qui sur scène insufflent leur énergie burlesque et théâtrale aux images tout en transformant chaque film en une expérience vivante, enjouée et unique. Alors forcément vous avez déjà un crayon en main et de quoi noter pour ne pas manquer la date. Eh bien ça arrive très vite puisque ça se passera le 3 janvier à 18h au cinéma de Goron avec la Ligue de l'Enseignement. Donc aujourd'hui, pour en savoir un peu plus sur Nimbus, j'ai la chance d'avoir à mon micro Jen Rival, une des artistes qui donne une voix, un rythme, une âme à ses courts-métrages. Alors ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez l'agité du local et le spectacle commence ici. L'agité du local sur l'autre radio. Jen Rival, merci d'avoir accepté mon invitation et bonjour à toi.
Bonjour Margot.
Alors je parle de Nimbus bien sûr, mais je dois aussi parler de ton acolyte pour ce projet. Il s'agit de Nicolas Méheux qui donne vie à tes côtés à ces histoires dont je viens de parler. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous raconter comment est née cette envie commune de raconter des histoires en musique et en particulier avec justement l'univers des ciné-concerts qui n'est quand même pas si commun que ça?
Déjà avec Nicolas, on travaille ensemble depuis une quinzaine d'années. On avait un duo plutôt rock qui n'était pas à l'adresse du jeune public. C'était vraiment pour toutes et tous. Et dans ce concert-là, on avait déjà une petite vidéo en type cinéma muet, noir et blanc, où qu'on mettait en musique. Et donc il y avait déjà cette petite touche de ciné-concert. Et au gré des rencontres, donc on a rencontré notre diffuseur, le label Caravane, avec qui on travaille déjà depuis 2018, qui avait vu cet univers-là et qui nous avait dit, ben, le jour où vous montez vraiment un ciné-concert tous les deux, nous, on serait intéressés pour travailler avec vous. Donc, suite à ce petit appel du pied, on a monté un premier ciné-concert qui s'appelle Eugénio, et sur l'univers du cirque. Et là, Nimbus, c'est notre dernière création en date. Il est sorti l'année dernière. Et là, on a eu une démarche, on a vraiment cherché plusieurs courts-métrages. On les regarde sans le son, vu que ce sont des films d'animation qui sont déjà existants. Et en fait, on a eu un gros coup de cœur sur le court-métrage qui s'appelle Nimbus, qui est l'histoire d'un chasseur d'étoiles, ni gentil ni méchant, et qui va faire une rencontre très particulière qui va changer le cours de sa vie.
Cette soirée ciné-concert porte le nom de ce court-métrage-là. Il y aura 5 courts-métrages de diffusés sur lesquels vous allez donc jouer de la musique. On peut dire qu'il y a une sorte de thématique qui revient quand même entre tous ces courts-métrages, qui les relie. Il y a l'idée du ciel, de la nature, des animaux. Ça a été important pour vous d'aborder ce sujet-là?
On part d'abord d'un coup de cœur vraiment artistique et poétique avant et évidemment le fait d'y mettre du sens et d'avoir une petite pointe sur les questions d'écologie, des réserves d'eau et de l'appropriation de l'eau, c'est ça, évidemment que ça nous touche, mais le fait qu'on s'adresse aux enfants, les thèmes en fait de fond, ils restent vraiment en fond, et on a envie que les enfants soient pas accablés après le spectacle, mais passent vraiment un moment gai et ludique. Donc notre première envie, c'est qu'ils voient des films avec des animations qui sortent un peu des sentiers battus. Donc il y a par exemple un des films qui est fait on va dire en vinyle, c'est une sorte de pâte à modeler. Il y a beaucoup de stop motion, du coup c'est des images qui sont photographiées et en fait les personnages à chaque fois sont déplacés, donc c'est un travail de titan pour les gens qui réalisent ce genre d'animation. Donc ça nous tenait à cœur de partager ce genre d'animation qui ressemble pas à la 3D qu'on peut avoir, qui peut être très chouette aussi, mais disons, on a beaucoup plus l'habitude de voir ça sur les grands écrans. Et puis évidemment, si d'avoir du fond, c'est aussi important. Ça permet, on fait beaucoup de scolaires, ça permet aux maîtresses et aux maîtres qui viennent nous voir de pouvoir eux développer un peu plus ces sujets-là en classe. Mais voilà, nous, le fil conducteur de notre spectacle, c'est le ciel. On rentre dans les habits de deux aéronautes, on fait un voyage, on emmène les enfants avec nous, et pendant ce voyage, on rencontre différents personnages, et voilà.
Et ce que je trouve intéressant quand tu parles de voyage, c'est que finalement, avec le choix de ces 5 courts-métrages, chaque film nous emmène entre du Mexique jusqu'au Royaume-Uni. Il y avait peut-être aussi le désir d'aller chercher des productions qui venaient de différentes cultures.
Oui, ben ça s'est fait au coup de cœur. On a vraiment regardé les énormément de films et ce sont des coups de cœur sur les sur le graphisme de ces univers-là. Comme on écoute les quand on les regarde sans son, donc c'est pas des coups de cœur en termes auditifs. Et nous, on essaye de se réapproprier du coup avec notre musique, avec nos bruitages et nos voix de personnages. On essaye de se les réapproprier, mais on aurait très bien pu avoir des coups de cœur sur aussi des productions qui viennent complètement d'ailleurs. En fait, c'est complètement ouvert et il s'est trouvé que nos coups de cœur sont tombés d'abord sur Nimbus, il est brésilien. Et d'ailleurs, on a cherché d'autres productions de la personne qui l'a fait et on trouve rien. Donc c'est vraiment une pépite à part qui n'a pas de précédent ni de film qui lui succède. C'est une pépite hors du temps, j'ai l'impression.
Tu nous as un petit peu dit quelques mots sur cette mise en scène, puisque finalement, c'est vos personnages à toi et puis celui de Nicolas qui relient un petit peu ces courts-métrages entre eux. Comment est-ce que tu peux peut-être nous décrire justement cette mise en scène et puis ce dialogue entre musique et image, puisque on parle de musique, mais en fait, c'est une création sonore. Même vous utilisez différents outils, différents accessoires pour recréer le son de ces courts-métrages.
Oui, c'est vrai que là, le ciné-concert, on va avoir 3 grandes familles de sons. On va faire les voix, on va faire la musique et on va faire tout ce qui est bruitage. Du coup, sur scène, on ramène beaucoup de choses qui nous permettent de recréer tout le son en direct. Et moi, j'utilise aussi pour tricher entre guillemets une pédale de looping. Du coup, je peux enregistrer certains sons en direct et qui me permettent du coup d'avoir les mains libres pour faire autre chose une fois que certaines pistes sont enregistrées. Et on a vraiment des instruments. Ça passe par l'accordéon, la guitare, le guitalélé, les synthés, et on va jusqu'à des hapeaux, des clochettes, des cloches d'éveil musical. On a plusieurs boîtes à musique, dont une un peu particulière où on peut vraiment nous-mêmes écrire les mélodies. Et on a un microphone qu'on peut mettre dans l'eau, l'hydrophone, qui est très sympa, qui nous permet d'entendre les bruits d'eau. Et qui c'est très pratique quand on a une thématique sur le ciel et l'eau. Et on a des carillons, on a des enfin voilà, vraiment une multitude de jouets aussi. On a une sorte d'éléphant bleu qui grince et qui nous permet de faire des bruits de portes qui s'ouvrent. Et voilà, on en a vraiment une multitude qu'on ramène sur scène et que les enfants ont l'occasion de voir jouer en direct, du coup.
Du coup, en t'entendant nous décrire tous ces instruments, j'imagine que, enfin, on peut dire, je pense, que la création sonore devient finalement très visuelle lors de ce ciné-concert.
Ah bah oui, c'est tout le jeu et le fun du ciné-concert, c'est de se rappeler aussi qu'au cinéma, le son, à un moment, il est fait. C'est une grosse partie du travail. Et évidemment, il y a tout l'aspect visuel qui est extrêmement important. Mais le son fait 50%, à mon sens, du film. Et du coup, ce qui est rigolo en ciné-concert, c'est on peut finalement redonner une lecture aussi à certains dessins animés. Et oui, c'est extrêmement visuel. On est éclairé pendant tout le spectacle. Et voilà, après, c'est au choix du spectateur et de la spectatrice de se faire happer plutôt par l'image ou de se faire happer plutôt par d'où vient le son.
Alors, tu l'as dit, le son, c'est finalement 50% du film. On parle donc, je pense, on peut le dire, de point de vue, vraiment par rapport à ce qui est raconté dans cette histoire à travers la réécriture du son. Est-ce que vous avez comparé peut-être votre écriture à vous avec celle qui avait pu être faite par les auteurs des 5 courts-métrages, ou est-ce que c'est une étape qui finalement n'est pas forcément nécessaire ?
Les a pas réécoutés avec le son. On est, parce qu'en plus, cette création-là, elle a mis pour nous le fait d'avoir 5 univers de ciné-concerts différents. Nous, ça nous a demandé plusieurs spectacles pour vraiment réussir à tisser le fil et arriver à une souplesse dans l'exécution de la musique et des bruitages. Et en fait, on avait besoin... on n'a pas ressenti le besoin d'aller regarder un autre son, sachant qu'il fallait qu'on continue et qu'on doit continuer encore à s'approprier la création qu'on a fait, nous, en fait. Par rapport aux voix, par rapport aux personnages, ça continue encore de se peaufiner. Du coup, non, aujourd'hui, on ne l'a pas encore écouté. Par contre, on est tombé une fois sur une spectatrice qui avait vu 3 courts-métrages. Et c'est drôle, elle nous a fait du coup des retours sur le fait qu'elle avait vu les 2 versions. Et ça, c'est assez sympa.
Et justement, quelle perception est-ce qu'elle a eue ? Ça a été une redécouverte pour elle ? Qu'est-ce qu'elle a pu vous en dire ?
Ouais, ça allait dans ce sens-là, ouais. Et du coup, c'était c'est assez guette, du coup, pour elle de se rendre compte que voilà, l'univers sonore, il peut vraiment complètement redynamiser aussi un film. Mais je pense que ça reste quand même compliqué de faire la comparaison, sachant qu'il y a une proposition qui est faite en live, et le direct, c'est précieux. C'est vraiment, ça change tout. Et tandis que là, elle, quand elle a vu le dessin animé dans son original, c'était pas une version avec les musiciens sur scène. Du coup, je pense que ça reste quand même compliqué de faire la comparaison. Quand on a vraiment le son qui vient directement des enceintes avec les gens, les musiciens et musiciennes sur scène qui jouent directement, ça prend quand même une autre, et heureusement, une autre dimension, quoi.
D'ailleurs, on peut parler de performance puisque tu dis que vous faites également les voix. L'idée, c'était aussi d'amener de l'humour, de la poésie, de créer ça via les voix, mais aussi via la musique.
Oui. Ouais, tout à fait. Là, sur ce ciné-concert, il y avait une vraie envie de développer encore plus l'aspect bruitage, parce que du coup, on n'est pas des bruiteurs, mais on se prête à ce jeu-là, parce qu'on trouve que c'est hyper ludique de bruiter certains moments des films. Et pareil pour les voix. On n'est pas comédien, mais en fait, on trouve que ça donne en fait vraiment de la profondeur au personnage et finalement ça amène quand même une touche d'humour de se prêter au jeu des voix des personnages. On les travaille, on essaye d'être au plus juste et puis des fois en fait juste on lâche, on fait c'est pas grave, on peut avoir même un sentiment au début, surtout quand on est dans le travail, de ridicule. Et en fait, on lâche complètement. Ça apporte quelque chose de faire la voix d'un petit oiseau ou d'une petite tortue. Et ben la magie, elle passe. Les enfants, en tout cas, là, les retours qu'on a, ils accrochent à fond. Et on a même, sur un des courts-métrages, fait des chansons en anglais. Et en fait on a fait machine arrière, on a fait ok, ça va pas, ça ne marche, ça, on n'était pas convaincus et on est passé sur des chants en français. Il fallait assumer un côté que nous on appelle le côté un peu Walt Disney en français et en fait ça marche, ça pour nous on est content, on s'amuse à le faire et comme on s'adresse à un public d'enfants français, ce petit court métrage, on sent qu'il y a une accroche quoi. Du coup c'était important, c'est un court métrage qui arrive un peu vers la fin du spectacle, on s'adresse à des enfants qui ont des fois 2 ans et demi, 3 ans et jusqu'à bien sûr plus grands, mais en tout cas pour les petits ça redynamise, ils entendent un petit oiseau qui s'adresse à eux directement en français, hop c'est reparti quoi, et on les accroche comme ça jusqu'à la fin du spectacle. Mais voilà, nous ça nous a demandé de se prêter à un jeu qu'on n'avait pas l'habitude de faire.
Avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, je fais forcément un lien avec ton parcours. Tu as été plusieurs années sur les routes, tu as pratiqué les arts de la rue, tu as aussi une formation de musique par le mouvement. Comment est-ce que ces expériences nourrissent peut-être ce projet aujourd'hui qui va être présenté en fait au Mayennais ?
Entre les courts-métrages, ça nous tient à cœur de rentrer dans la peau de personnages dont je parlais, que là, on est des aéronautes, on voyage en montgolfière, et en fait, ces expériences, elles nourrissent le spectacle parce que je m'adresse directement aux enfants, au public, et puis je peux rebondir sur certaines interactions qu'ils peuvent avoir, et du coup, dans le ciné-concert, ça prend finalement peu de place. Au début, je les accueille. Il y a un moment, on fait une petite pause avec les projections pour être sûr qu'ils ne restent pas que accrochés à l'image. Je reviens sur scène, je me réadresse directement à eux. Et puis là, moi, je m'amuse beaucoup. Je rentre dans la peau d'un personnage qui est un peu... qui est un peu léger, bavard, pétillant, et du coup, c'est là que je pense que ça apparaît, cette expérience, surtout à travailler dans l'art en tant qu'artiste de rue pendant des années. On apprend vraiment à accrocher les gens qui passent, parce que s'ils ne s'arrêtent pas, on n'aura pas de sous dans le chapeau. Du coup, c'est une grande, grande formation. Et puis tout le lien musique au corps, ça apparaît dans les façons de se déplacer, puis de rentrer dans la peau d'un personnage.
Si on jette un coup d'œil au parcours de Nicolas qui t'accompagne sur scène, lui c'est un autodidacte de la musique passionné par les claviers vintage, il a eu des collaborations artistiques assez éclectiques, j'imagine que son parcours à lui, un peu différent, influence aussi vos choix musicaux dans ce projet et la création des personnages, la construction finalement du récit qui se fait par le son.
On travaille tous les deux, on se connaît depuis très longtemps et on connaît... très bien les inspirations de l'un et de l'autre. Et c'est vrai que quand on travaille sur une création, on a vite des codes communs, vu qu'on En fait, on connaît les films que l'autre a vus, on connaît la musique que l'autre apprécie, on connaît les concerts que les musiciens ou les musiciennes, les chorégraphes, les dessinateurs, les gens qui écrivent de la BD, on connaît vraiment tout ça de l'un et de l'autre. Donc ça fait que quand on écrit de la musique d'ensemble ou quand on va sur la direction des personnages, ben on a des codes et des façons de parler qui vont faire qu'on se comprend très vite et qu'on peut vraiment avancer dans une direction en ping-pong comme ça dans la création. Et c'est un énorme cadeau, c'est juste génial. Nico, il a une expérience dingue en tant qu'arrangeur. Il a arrangé des musiques pour dernièrement en date, il a fait un album de comptine avec le compteur Yannick Jolin. Et donc c'est plein de petites pépites. Il a, comme tu as dit, il a aussi travaillé avec plein de musiciens. Il a commencé avec donc le groupe Percuc Baba, donc ça il était très jeune quand il a fait ça, ça a été quand même une grosse expérience de scène et une grande expérience de groupe. Et après il a partagé des bouts de route avec multi musiciens, mais des personnes quand même comme Dominica. Là prochainement il va sur la tournée de Miossec qui va présenter son dernier album. Donc il a vraiment une expérience riche aussi de rencontres avec d'autres musiciens. Je pense aussi au trio Chien Vert qui est de la musique improvisée et puis j'en oublie plein. Donc lui il est vraiment fort d'une expérience avec plein de musiciens, plutôt des musiciens du coup, et qui qui ont carrément de la bouteille, quoi.
Et là, il y a la particularité quand même de s'adresser sur le spectacle Nimbus à un jeune public. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui... J'imagine que c'est aussi plus de défis et à la fois une reconnaissance quand même hyper forte quand dans les yeux des enfants, on voit de l'émotion quand on arrive déjà même à capter leur attention et la garder tout au long du spectacle.
Non, mais c'est génial. On a la chance de pouvoir faire... beaucoup de scolaires, ça c'est extrêmement précieux de permettre aux enfants de venir au spectacle alors qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion d'y aller. Et nous, à la fin des spectacles, généralement on se met à côté de la sortie pour leur dire salut et les remercier d'être venus nous voir. Et il y a certains enfants, ils viennent juste nous faire des énormes câlins. C'est hyper fort. C'est vraiment un cadeau. Enfin, le jeune public, j'adore, je trouve que c'est une chance de pouvoir faire des spectacles pour des enfants qui n'ont pas précisément les codes. Des fois, à la fin du spectacle, ils applaudissent pas parce que, en fait, ils ont pas encore appris qu'à la fin on applaudit, ou ils applaudissent très peu. Mais c'est génial parce que, enfin, c'est génial. En fait, ils ont pas de filtre, ils ont pas ces codes-là.
Oui, puisqu'ils sont aussi très honnêtes, s'il y a un truc qui marche pas, en fait, ils vont aussi savoir le dire.
Mais carrément. Et puis en même temps, pendant le spectacle, là, ils réagissent à fond. Et donc, en fait, on le sent, en fait, ils sont vraiment avec nous. Et en effet, les enfants, si ça marche pas, il va pas y avoir de filtre. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'écrire des spectacles. Mais ça, je pense que c'est quand même pareil pour les plus grands. Je trouve ça important de se mettre à la place des gens. Enfin, en tout cas... Moi, c'est des choses qui me traversent quand j'écris un spectacle, c'est de me mettre à la place de la personne, si c'est un petit ou si c'est un grand qui arrive de sa journée de boulot et c'est le vendredi soir, il est crevé, il vient de s'asseoir dans son siège. Bon, je peux pas m'empêcher de me mettre à la place de la personne et de me dire, allez, dans le déroulé du spectacle, là, si à ce moment-là c'est trop long, je serai la première à lâcher le morceau, en fait. J'imagine
que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de se remettre à hauteur d'enfant quand adulte on a déjà eu quelques étapes qui nous ont apporté un certain désenchantement peut-être.
On peut pas, on peut jamais vraiment se mettre à la place de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, on peut essayer. Et puis, en fait, après, il y a les premières. Il y a avant de jouer la toute première officielle, nous, on avait fait une résidence à côté de chez nous et il y avait 250 enfants qui étaient venus nous voir. Le spectacle n'était pas du tout fini, on n'avait pas les costumes, on n'avait pas encore même les personnages, mais on avait réécrit la musique. Et du coup, il y a des étapes aussi dans la création qui font que on n'arrive pas juste comme ça un jour, paf, et on n'a rien essayé du tout. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure aussi des différents spectacles qu'on écrit, on commence aussi à prendre un peu des repères, je pense. Mais je pense que non, on peut pas se dire qu'on arrive à se mettre dans la tête d'un enfant. Par contre, on peut se dire, ah, qu'est-ce qu'on a envie de partager nous avec eux? Parce qu'il y a plein de types de spectacles jeune public et c'est cool, c'est vraiment chouette qu'il y ait aujourd'hui encore, il y a une diversité. Je croise les doigts, on n'est quand même pas hyper bien barré, on va dire, pour la garder cette diversité. Ah ouais, j'en profite quand même pour partager ça. Nous, on avait un spectacle qui était prévu à Saint-Nazaire en juin prochain, pour donc trois scolaires pour les enfants. C'est un spectacle qui, depuis des années, est offert par la mairie et les coupes régionales font que le spectacle est annulé. Donc, il y a vraiment des choix là qui sont faits où ça tombe directement sur nous tous et sur des spectacles qui sont offerts aux enfants. Et voilà.
En tant qu'artiste, donc il y a ce regard que tu as sur les propositions artistiques qui étaient faites aux enfants qui sont annulées. Est-ce que tu as aussi de l'inquiétude juste pour ton statut aussi d'artiste, pour ton avenir personnel et de te dire est-ce qu'on va pouvoir faire les mêmes propositions? Est-ce que la sélection sera plus rude avec des salles qui auront peut-être moins de budget et les capacités d'accueillir moins de spectacles? Qu'est-ce que tu ressens?
Bien sûr. Évidemment, mais l'inquiétude, elle est plus globale que juste nos statuts à nous. L'inquiétude, c'est que aujourd'hui, on a la chance de pouvoir aller voir des spectacles de marionnettes ou qui demandent des jauges de 80, 100 enfants. Et aujourd'hui, on peut encore voir ça. Bah, bientôt, ce sera plus possible parce que accueillir un spectacle où, entre guillemets, il n'y a que 100 enfants, ça va coûter trop cher. Et ils vont vouloir faire des spectacles où on va mettre 600 enfants dans une même pièce enfin, ou en tout cas remplir des salles. Et puis, du coup, en fait, ça va éliminer de fait des propositions qui sont précieuses, qui sont extrêmement précieuses, parce que ce sont, bah, je parlais de diversité dans les films d'animation. Bah, voilà, il y a des personnes qui ont dans leur proposition de créatrice, ils sont vraiment en théâtre, dans des textes qui vont peut-être être un peu plus compliqués à aborder, des sujets qui sont précieux, mais qui vont pas être faciles à aborder. Ben, je pense que ces spectacles-là, on va avoir plus de mal à les voir. Et puis, ben, nous, on va suivre aussi, hein. Je pense que si la culture n'a plus du tout d'argent pour accueillir les spectacles, ben, évidemment, on va tirer notre révérence, en tout cas dans les lieux qui aujourd'hui pouvaient accueillir du jeune public et les classes et les scolaires. Évidemment, on va essayer de se réinventer, mais moi, ça me dépasse complètement. Je vois pas du tout qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en empêchant des enfants de venir voir un spectacle à la fin d'année. Je vois pas d'amour, je vois pas de politique éducative.
À quoi pourrait ressembler une société justement qui en période de crise choisit de sacrifier sa culture aussi, tout ce qui est social? En fait, là, on s'attaque concrètement, enfin, on s'attaque ou en tout cas, on sacrifie directement les coupes budgétaires, se font à cet endroit-là.
Oui, ben moi je crois pas à cette société-là, ça c'est sûr.
Si on revient sur l'écriture, sur le fait de se mettre à hauteur d'enfant, j'imagine qu'il y a aussi un niveau de lecture pour les adultes puisque c'est un spectacle familial.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est sur l'aspect ciné-concert. C'est vrai qu'on a parfois, en tout public, des parents à la sortie du spectacle qui nous disent « Mais en fait, j'ai adoré !» Et j'aime bien le petit « en fait ». Ils viennent à un spectacle en pensant « Bon, allez, on va au spectacle, c'est pour nos enfants. » Et en fait, ils ont les yeux qui pétillent, ils ont découvert des choses, ils ont découvert une forme qu'ils connaissaient pas, et c'est aussi se rappeler que bah au cinéma le son il est créé quelque part et là il le voit en direct. Donc oui, il y a complètement plusieurs lignes de lecture. C'est en fait vraiment un tout public et un chouette moment à passer en famille, je pense.
Pour terminer, Jen, ce projet Nimbus, c'est le deuxième ciné-concert que vous créez tous les deux avec Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours, d'autres projets de ce type-là, ou est-ce que finalement vous êtes aussi peut-être parti sur autre chose pour la suite ?
Là, aujourd'hui, comme le ciné-concert, il n'a qu'un an. On a, nous, la chance d'avoir une super belle saison. On est très occupés à jouer et à répondre aux interviews. Mais c'est très chouette, du coup, d'avoir l'occasion de le jouer beaucoup. Le temps qu'on a à côté de ces représentations-là, il est plutôt dirigé vers des projets qu'on a musicaux. Là, je disais que Nico, il part en tournée, notamment avec Miossec. Moi, j'ai un autre quintet de voix de femmes qui s'appelle Vilaine, où on chante en polyphonie. Et en fait, on a quand même différentes casquettes. Et donc les créations, elles sont tournées vers la musique et des spectacles qui sont pas précisément jeunes publics. Mais je pense que dans les années à venir, ça va nous reprendre.
En tout cas, merci beaucoup, Jen, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, je rappelle les dates sur lesquelles on va pouvoir venir découvrir donc, la soirée Nimbus, la soirée ciné-concert. Donc, ce sera le 3 janvier à 18h au cinéma de Goron avec la Ligue de l'Enseignement. Et puis ensuite à Laval, le 14 janvier au 40 dans le cadre du festival Monde dans le bus, une programmation plus à destination des scolaires organisée par le 6x4. Merci beaucoup, Jen, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, Margot.
L'agité du local sur l'autre radio. Donc nous sommes lundi, dans quelques instants, on retrouve la chronique de la Ligue des droits de l'homme, bien évidemment, avec Alain Voisin. Mais avant ça, je vous propose une pause musicale. On écoute Claude et le titre « Aide-moi un peu ».
J'ai ta salive dans la bouche, tes ongles qui traversent ma paume. Ça fait tout drôle quand on se débauche. La vie c'est sale, c'est beau, c'est moche. Moi je suis un bon à rien, j'sais pas faire grand chose de mes mains. Mais je pourrais les joindre et puis te prier. Une langue bavarde agenouillée. Et aide-moi un peu à te rendre Et aide-moi un peu à te rendre. Et aide-moi un peu à te rendre voitures vrombissent sous la fenêtre, vomissent leur grisaille sur les carreaux. Mais moi je veux plus sentir les moteurs, sauf celui qui s'emballe sous ta peau. On se rapproche à chaque secousse, un double nœud qui se resserre. Pour pitié, dis-moi comment faire. Avant que la passion ne s'émousse. Et aide-moi un peu. Aide-moi un peu aide-moi à te rendre.
Et donc c'est le moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Alain Voisin. Bonjour Alain, alors vous nous parlez de la fin d'année 2024 aujourd'hui.
Oui, cette chronique est diffusée à quelques heures du changement d'année. C'est un moment particulier où nous nous retrouvons pour faire la fête, pour célébrer le passage vers une nouvelle année. Un regard sur l'année passée n'incite pas naturellement à l'optimisme. Et nous avons tout au long de l'année parlé de sujets graves, de recul des droits et libertés, de difficultés à mobiliser pour la paix, pour l'égalité des droits partout et pour tous. Certes, l'année qui vient risque fort d'être dans la même tendance. Mais ne faut-il pas pour autant chercher des éléments de confiance dans l'avenir, se dire qu'un avenir plus beau est possible ? Alors il faut s'accrocher à la raison qui peut rendre optimiste et qui peut permettre de se donner des forces pour agir toujours et encore pour les droits humains, pour faire des valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme une réalité pour tous. Je voudrais pour cela retenir un chiffre. Plus de la moitié des citoyennes et citoyens adhèrent à l'idée qu'il faut changer nos modes de vie et la société pour que la planète qui brûle est un avenir durable. Ainsi, nous sommes une majorité à vouloir des changements substantiels, voire radicaux, pour un avenir durable. N'y a-t-il pas là un point d'appui sérieux pour organiser autrement la vie en société et l'économie ? Je veux le penser, et je trouve là des raisons pour agir, pour unir, pour fédérer des énergies, pour inciter les citoyennes et citoyens à s'engager collectivement dans l'action pour gagner, pour aller vers un avenir de progrès social et de transformation écologique. Au moment du basculement d'une année à l'autre, un moment où on pose un regard en arrière sur l'année passée, où on émet des attentes pour le futur, certains formeront des vœux. Voilà une perspective de raison d'optimisme pour tous et toutes. Depuis notre création, il y a plus de 120 ans à la LDH, nous pensons que le fait de se liguer, de se réunir pour agir ensemble, cela ouvre des portes pour gagner, pour imposer le droit et la justice. Aujourd'hui, nous à la LDH, nous pensons nécessaire de faire en sorte que tous ceux qui s'engagent dans des associations pour les droits humains, dans les syndicats, et aussi tous ceux qui se disent qu'ils font un avenir à la planète, qui sont une majorité de citoyennes et de citoyens, il faut que tous se fédèrent, prennent des initiatives ensemble pour que les droits égaux pour tous deviennent une réalité. Voilà ce qui nous rend optimistes, raisonnablement optimistes. Et voilà ce qui va nous animer pour l'année qui vient. Je souhaite donc à toutes et tous d'agréables moments de fête et de convivialité pour terminer cette année 2024. Rendez-vous en 2025 pour les droits pour tous, pour un avenir de transformation sociale et environnementale.
Merci beaucoup Alain et je vous souhaite également de bien fêter cette nouvelle année. L'Agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jen Rival d'avoir été à mon micro aujourd'hui. Merci à Alain Voisin, notre chroniqueur évidemment. L'émission s'arrête, mais ça continue sur les ondes de l'autre radio. Votre soirée commence à 19h avec Solénoïde, une émission qui sera suivie à 20h de la discothèque. Mais tout de suite, à 13h, c'est l'émission Regarde ailleurs, une émission qui chaque semaine traite de l'interculturalité. C'est une émission qui offre un espace d'expression à ces hommes et ces femmes croisés en France ou à l'étranger. Elle nous fait découvrir des parcours de vie étonnants d'expatriés vivant à l'étranger, d'immigrés ou de voyageurs. Et donc, ça commence à 13h. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons compagnie de l'association Mayotte Fleurie 53 qui, la semaine dernière, récoltait des dons auprès des Mayennais et Lavallois suite au cyclone Chido. D'ici là, laissez-vous porter par la douceur des derniers instants. Tournez vos pensées vers ceux qui vous inspirent et gardez une étincelle. Voilà, vous le savez, je ne vous demande qu'une chose. S'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin. Bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.